grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneau.
Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans les grandes voix. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cottage, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour.
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 Et
bonjour.
Programme de cette émission, incendie diplomatique entre Paris et Rome sur la question migratoire, après les propos très critiques de Gérald Darmanin à Giorgia Meloni, propos inqualifiables, voilà ce que dit le chef de la diplomatie italienne qui a annulé sa visite en France. Elisabeth Borne cherche l'apaisement. Que s'est-il passé? Maladresse ou message intentionnel après le report à l'automne de la loi immigration? Car enfin, ne sous-estime-t-on pas la gravité de la situation migratoire en Europe? Nous le verrons. Autre incendie cette semaine, celui du 1er mai. 1er mai marqué par la violence des Black Blocs, mais aussi par des propos eux-mêmes très violents de certains parlementaires. Faut-il préparer une nouvelle loi anti-casseurs? Nous poserons la question. Enfin, en Ukraine, la contre-offensive de Kiev se prépare de façon imminente. Les troupes s'organisent face à une armée russe à bout de souffle, en manque de munitions. Du côté du Kremlin, on dénonce un attentat contre Poutine et l'ancien président Medvedev appelle à faire assassiner Zelensky. Quelle suite? Dernier dossier à voir en fin d'émission. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. C'était jeudi matin, Gérald Darmanin invitait des grandes gueules sur RMC, questionné sur les propos de Jordan Bardella concernant la gestion française des flux migratoires à la frontière franco-italienne, qui disait en substance que l'exécutif était impuissant et indifférent à la question. Gérald Darmanin d'abord répond que Bardella se moque du monde, et ensuite que c'est la faute des Italiens. Parce que, dit-il, Madame Meloni, gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Madame Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Résultat, crise diplomatique entre Rome et Paris. Elisabeth Borne appelle maintenant à l'apaisement. C'est une bourde, Gérard Carrérou, de Gérald Darmanin, ou c'est plus ou moins intentionnel?
Alors écoutez, dans un premier temps, je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi il nous fait ce numéro-là, M. Darmanin. Et puis après, je vais vous dire pourquoi, au contraire, je comprends trop bien. Je ne comprends pas, parce que je regarde les faits. Je ne sais pas ce que donnera l'action de Madame Meloni sur ce sujet terrible pour l'Italie, comme pour la France d'ailleurs, de l'immigration incontrôlée. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, elle en a quatre fois plus qui arrivent ces jours-ci que l'année dernière, à la même époque, que ça devient un problème. Alors évidemment, la réalité du pouvoir, pour quelqu'un qui ne l'exerçait pas, est difficile. On peut donc probablement lui faire des critiques sur ce point. Mais de là à nous faire, si vous voulez, le jeu, enfin l'éternel, on voit dans la poutre, on voit la paille et la poutre, si j'ose dire, et la poutre, elle est chez Darmanin. Quand on est Monsieur Darmanin, si on avait un bilan extraordinaire dans son domaine, extraordinaire, je dis bien, on pourrait se permettre de critiquer tout le monde, et Madame Meloni, entre autres. Mais quand on a fait le Stade de France, dont les Anglais, ce jour de couronnement, peut-être autre chose à penser, mais se souviennent encore, quand on a fait le Stade de France, quand on fait Mayotte, qui pour l'instant est loin d'être un succès, on verra peut-être à la fin, moi je souhaite ardemment qu'il y ait un succès à la fin.
Merci la décision de la justice aussi.
Mais toutes choses égales, quand on a un bilan qui est pour le monde moins mitigé ou controversé, on ne fait pas cette sortie qui risque... Bon, alors pourquoi? Alors vous me dire, dans ce cas-là, pourquoi l'a-t-il faite? Il l'a faite parce que M. Darmanin, à l'heure actuelle, est le ministre le plus politique de ce gouvernement, qui n'en a pas beaucoup, d'hommes politiques de haut niveau, et donc il fait de la politique. Il est ouvertement un des possibles pour la succession de Mme Borne, et un des probables pour la prochaine présidentielle. Il taille son chemin, comme le taillait son chemin, pour ceux qui sont les plus âgés d'entre nous, Sarkozy, dans les années de début 2000. Donc, si vous voulez, il y a cette démarche hyper politique, et il a fait de la politique intérieure en faisant une sorte d'amalgame entre Mme Le Pen, qui n'a jamais été au pouvoir, et Madame Meloni, oui, qui l'est aujourd'hui, qui en disant d'arriver. Vous voyez ce que ça donne.
Mais c'est toujours casse-gueule.
Casse-gueule. Et ça va, à mon avis, se transformer en eau de boudin pour Darmanin.
Oui, moi, personnellement, j'ai trouvé cette déclaration idiote du ministre de l'Intérieur, et je trouve qu'en matière de diplomatie, il n'a pas la main verte, et que c'est un récidiviste. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il attaque l'Italie. Déjà, lorsqu'il y a eu l'Ocean Viking, vous savez, lorsque le bateau qui est quand même affrété par une ONG française, payé par des collectivités locales françaises, eh bien, le ministre des Ports italien, que c'est M. Salvini, qui venait d'accueillir 4 bateaux quand même, a dit, bah, écoutez, celui-là, il n'a qu'à partir, en France. Et à l'époque, trouvait que ce refus de l'Italie, c'était inacceptable, inhumain. Darmanin avait accusé beaucoup Mme Meloni et ça avait déjà fait un incident diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères avait dit, enfin bref, c'était la crise. Mais là, il répond à Bardella. Ce qui l'a agacé, c'est que Bardella vienne à Nice, à Menton.
À Menton.
Voilà, pour dire d'abord que cet accueil des jeunes migrants, comment on appelle les mineurs isolés, bien, il dit ils ne sont pas plus mineurs que moi, je suis archevêque. Et puis, comme le ministre avait traité Mme Le Pen de petite femme politique, lui dit mais il n'a pas la carrure, il n'a pas. Donc, je pense qu'il a piqué M. Darmanin, qui lui a répondu comme ça. Mais tous pour attaquer Mme Meloni, ça veut lui dire quand vous serez au pouvoir, vous réussirez pas mieux qu'elle. C'est ça qu'il veut lui dire, pour montrer que l'extrême droite, et c'est vrai que Mme Meloni, elle fait pas mieux. À partir du moment où un ministre d'extrême droite en Italie a voulu faire plus, c'est-à-dire Salvini voulait empêcher les bateaux d'entrer, eh bien la justice italienne l'a condamné. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?
Charles Villeneuve.
Alors moi, je trouve que cette querelle est totalement secondaire et sous-estime, et c'est le sens de votre question, de votre dernière question, est-ce que la gravité de la situation migratoire en Europe n'est pas finalement beaucoup plus importante que ces querelles de vestiaires, sincèrement. De vestiaires. Pourquoi ? Parce que la migration de masse, qui va déferler sur l'Europe, c'est la conséquence d'une démographie africaine qui est devenue complètement folle. C'est elle qui, en réalité, met en difficulté l'Afrique et va nous submerger. Je regardais les chiffres de l'AFAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Actuellement, là, aujourd'hui, il y a 23 millions d'Africains au Soudan, en Somalie, au Sahel, qui sont en situation non pas de pénurie alimentaire, mais de famine. Et ces 23 millions se dirigent à l'heure actuelle, ont pris le chemin de deux ports libyens, Benghazi et Tripoli, pour évidemment, à proximité de la botte italienne, envahir l'Italie et déferler sur l'Europe. Et c'est 23. Il y a actuellement 1,4 milliard d'habitants. Rien qu'au Niger, il y a 192 millions d'habitants. Parce qu'il y a eu des progrès notables en Afrique, notamment sur les grandes entreprises alimentaires, etc. 45% de progrès, ce qui est remarquable. Mais la démographie est de 115%. Observez les cas. Entre 45 et 115%, 1,4 milliard, 2050, 5 milliards d'Africains. Comment vont-ils se nourrir par-dessus le marché avec la guerre Afrique en Europe entre la Russie et l'Ukraine, qui sont des greniers alimentaires, greniers de blé les deux. Le prix du kilo de farine, notamment en Égypte, 100 millions d'habitants, 100 millions, grands mangeurs de pain. Tout l'Orient est grand mangeur et débiteur de pain, pas seulement l'Égypte, tout l'Orient, avec ce qu'on appelle les pains ronds, vous savez, les robstaboun en arabe. Bon, eh bien, ça quintuplé le prix dans les petits commerces, etc. Et donc, rien que l'Afrique du Nord a augmenté ses budgets de 50% pour s'alimenter en blé.
Michel Cotta.
Bon, pour Charles a tout dit. Simplement, moi, je trouve que Darmanin, Comme disait François Giroud, il n'a pas la manière. D'une façon générale, après tout, ce qu'il dit, là, on aurait pu le dire de la même façon, on aurait pu le dire à Bardella, il n'a pas la manière, et quoi qu'il fasse...
Oui, mais il trace sa route, comme disait Gérard.
Bah, je ne suis pas sûr. Eh bien, justement, et c'est ce qu'il veut faire.
Bah moi, j'en suis bien
mais
sûr.
À mon avis,
il essaie de tracer sa route, mais il ne prend pas la bonne voie.
Tracer sa route, ça ne veut pas dire qu'on réussit forcément.
Voilà. Hein. Alors, oui, et quand on voit, justement, si on fait le parallèle avec Sarkozy... On trouve pas. Sarkozy avait une certaine manière de dire les choses, y compris lorsqu'il était volontairement agressif. Là, on voit bien ce qu'il veut dire. Il veut dire vous ne ferez pas mieux. Voilà, ça se fait. Bon, deuxièmement, c'est vrai que c'est un problème européen. Je veux dire, je ne vois pas comment maintenant on peut considérer que la France contre l'Italie ou l'Italie contre la France peut faire quelque chose. Bon, ce n'est pas parce qu'à Menton, il y a effectivement beaucoup de gens que ça change. Bon, l'Italie est vraiment. en tête de pont. Bon, donc il faut plutôt l'aider.
Travailler ensemble.
Il faut plutôt travailler ensemble,
oui.
Y compris pour nous, parce que les deuxièmes, c'est
toute
nous, avec le volume de Saône.
Bon.
Donc ça ne se traite qu'à l'Europe. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'Europe, quand elle voulait se répartir les migrants, a été complètement incapable de le faire.
Et ça, c'était une promesse en juin dernier.
Donc, c'était déjà en juin dernier.
Oui,
alors,
oui.
Je trouve que même en juin dernier, où la situation était relativement plus stable, oui. Ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Mmh. Moi, je suis très inquiète sur, effectivement, le sud de la France et une majeure partie de l'Italie. Donc, ça ne peut se réduire, ça ne peut se résoudre qu'à Bruxelles et que dans un climat de concorde, quelle que soit Madame Mélanie, dont pour le
coup, le faisant notamment des surenchères
bien,
de politique intérieure.
Mais on va en parler.
On est d'accord.
Après une première pause dans les grandes voies, tout de suite. Europe 1, Pierre de Villeneuve. Pour les grandes voix avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on parle de cette crise migratoire qui existe en Europe. Vous l'avez vu dans le premier chapitre de cette émission. Je vous donne quelques chiffres. En 2022, Frontex, l'agence européenne de garde frontières et de garde côtes, a signalé 330 000 entrées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne. C'est en augmentation de 64% par rapport à 2021. Les pays de l'Union européenne, la Norvège, la Suisse, ont reçu ensemble 966 000 nouvelles demandes d'asile en 2022. Juste avant la pause publicitaire, vous disiez tous, il faut que ça soit coordonné à Bruxelles. Mais le problème, c'est que chaque pays de l'Union européenne a une politique migratoire différente.
Oui, garde la maîtrise de sa politique d'immigration.
C'est
l'un des problèmes, parce que ce sont des politiques en réalité nationales qui n'a aucune passerelle avec les autres pays européens. Alors chacun a son immigration. L'Allemagne, c'est les Turcs. Et c'est pas la même chose en France, bien évidemment. C'est très différent. Mais pour autant, c'est
elle
aussi,
a eu aussi
une immigration.
Les immigrés de Madame.
Non, mais il y a quand même un problème évident, c'est que
les Turcs.
Chaque pays devrait être maître de sa politique d'immigration. Ah. Mais depuis, effectivement. La progression des institutions européennes, progression ou régression, quelle que soit la façon dont on les regarde, on voit effectivement que maintenant, il est extrêmement difficile, voire impossible, de mener une politique d'immigration autonome. Mener une véritable politique autonome.
Exact.
Donc, on ne peut faire qu'une politique globale travers des institutions. Mais on constate que pour mener une politique globale, il faut être d'accord sur un cap commun. Le cap commun étant, moi je suis de ceux qui pensent que le cap commun devrait être comment canaliser et limiter cette immigration dont Sarkozy nous dit à juste titre qu'elle ne fait que commencer. Ça serait bien si c'était le cas pour l'Europe. Mais l'Europe, dans son idéologie, ne partage pas cette volonté. L'Europe trouve que c'est une excellente, elle le démontre à chaque instant, c'est la meilleure chose possible, c'est d'avoir de plus en plus d'immigration en Europe.
La Commission
et les instances, judiciaires notamment, vont en permanence dans le sens de plus d'immigration, c'est bien. Alors que la majorité des opinions publiques en Italie, en France et dans d'autres pays est plutôt attention, c'est pas bien. Au contraire, ça va mal.
Rappelons le pape qui vient de faire un voyage en Pologne et qu'il dit, mais vraiment, accueillez des migrants.
Oui.
D'ailleurs, moi, je trouve que les migrants qui viennent sont en majorité des musulmans. Or, moi, faire venir plus de musulmans, pour le pape, c'est quand même s'enlever des parts de marché importantes pour les catholiques. Donc, je trouve qu'il est assez
malvenu. Vous voulez dire qu'il n'est pas très commerçant?
Ce que ça veut dire,
oui. Non, mais madame,
j'en reviens sur madame Meloni. Elle a proposé quelque chose. Elle dit, au lieu de se disputer avec la France, il faudrait que d'abord, tous les pays qui ont la Méditerranée en commun, qui est Malte, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France, eh bien, on s'entende et qu'on pèse ensemble pour parler en Europe aussi. C'est vrai, si tout le monde était d'accord, ça serait déjà...
Il faudrait aussi, Catherine, établir un dialogue réel avec les pays africains. Et ça, on a laissé tomber, on a coupé beaucoup de cordons ombilicales. Parce qu'en Afrique, il y a eu des progrès considérables, notamment sur le plan des grands investissements alimentaires. Il y a eu ce progrès, 45% de plus, sauf que la démographie est exorbitante et qu'elle déborde complètement, évidemment, ce progrès.
La seule solution aussi, c'est d'arranger les choses depuis l'Afrique, parce que on dit, nous, on a l'impression que l'Afrique est un continent qui ne se développera pas, qui est en retard, etc. Et bien sûr que si, il se développe, ne serait-ce qu'avec l'aide des Chinois et des Russes.
Oui. Hein,
on s'en aperçoit. Bon, donc au fond, la seule façon, c'est de fixer les Nigériens au Niger, c'est de fixer le maximum
ou qu'ils aillent en Chine.
Oui, mais... Non, mais ça, ils n'y vont pas, parce qu'en plus,
les Chinois ne sont pas favorables à l'immigration.
C'est plus difficile.
Oui, mais c'est difficile parce qu'une enquête qui a été faite dans un certain nombre de pays de jeunes Africains, entre 18 et 25 ans,
c'est eux qu'il faut persuader.
52% d'entre eux ont répondu en disant que leur avenir... Se situe en Europe.
On les entend tous les jours.
À partir de là, c'est une vague. Oui. 52% de millions de jeunes en âge de partir ou d'aller travailler.
J'ai une réponse là-dessus.
Oui, tant mieux que d'une réponse.
J'ai une réponse parce que cette réponse vient du fait que ces pays, notamment politiquement, sont extrêmement corrompus, souvent totalitaires. Et pour desserrer cet étau-là, alors, on verra évidemment dans quel sens ici ce sera productif. Il faut savoir que la Chine a décidé sur le plan budgétaire d'investir 200 milliards. Elle vient de doubler la somme.
400
milliards. 400 milliards d'euros. Donc, tout à l'heure, Catherine disait entre les Russes et Michel aussi, les Russes et les Chinois vont peut-être fixer et développer ces jeunes Chinois. J'en suis moins sûr. Je rappelle, par exemple, petit pays que je connais bien, la Mauritanie, 4/5 désertique. 231 000 habitants en 1920. Vous savez combien aujourd'hui ? 5 300 000. Où ils sont tous ?
D'accord, mais on ne peut pas les tuer. Donc il faut bien
50% sont en Europe.
Il faut bien au moins avoir une politique africaine qui se débarrasse quand même des régimes corrompus et qui en plus fasse des villes, des constructions. Il y a assez d'espace, il y a assez de ressources pour essayer de les fixer.
Mais la démographie va plus vite que les réalisations.
Alors on n'y peut rien.
Les grandes voix se poursuivent. Une nouvelle pause. Je vous signale juste que demain à 10h, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, entouré de Stéphane Dupont des Échos et Mathieu Bock-Côté. Sonia recevra ce dimanche Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, c'est l'entretien sans concession chaque dimanche de 10h à 11h sur Europe 1. A tout de suite pour les grandes voix.